Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
On est de retour sur RMC pour un très beau cadeau de Noël, le best-of des grandes gueules du sport. C'est votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Les GG seront de retour en direct le week-end prochain pour de nouveaux débats endiablés. Mais pour ce 25 décembre, nous vous proposons un petit retour en arrière. C'était le 4 décembre où Golloris allait égaler face à la Pologne le record de sélection de Lilian Thuram. Entre-t-il dans la légende des Bleus? C'était notre bras de fer très animé avec Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Stephen Brun et notre spécialiste équipe de France, Jean-Louis Tour. 142, c'est l'un des chiffres du jour. Aujourd'hui, Hugo Lloris va égaler le record de sélection de Lilian Thuram pour le huitième de finale face à la Pologne. Une longévité exceptionnelle, titulaire indiscutable en équipe de France depuis 13 ans. Hugo Lloris dispute au Qatar sa quatrième Coupe du Monde. Il disputera cet après-midi son 17e match du Mondial, égalant les records de Thierry Henry et tiens, d'un certain Fabien Barthez. Oui. Quelle place lui accorder désormais dans l'histoire de notre équipe de France? Dans le coin gauche, la team légende, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat. Dans le coin droit, la team pas légende, Christophe Cessieux, Stephen Brun et Jean-Louis Tour. C'est parti pour le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et vous êtes extrêmement nombreux depuis ce matin à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Une tendance se dégage.
Il ne bougera pas.
Assez facilement. Mais on va voir si vous arrivez à grignoter quelques pourcentages. Pour l'instant, après plusieurs milliers de votes, 72% pour la team légende. Ben vous l'aurez compris, 28% pour la team pas légende. C'est de coutume, la team pas légende, vous êtes derrière, largement derrière. À vous de convaincre votre auditoire. Christophe Cessieux, Jean-Louis Tour et Stephen Brun, j'ai entendu un « c'est fou ça » de la part de Jean-Louis Tour. Jean-Louis, tu commences. Pourquoi
bah, l'écart
pas légende
du sondage, oui, effectivement. En fait, c'est un truc assez subjectif quand même, ce débat sur le mot légende. Chacun a ses critères. Moi, je considère qu'une légende du foot français, bah, il n'y en a pas tant que ça. Mmh. C'est vraiment les joueurs exceptionnels. J'ai pas envie de galvauder ce mot. Je trouve que justement, on l'utilise un peu trop à tort et à travers. Pour moi, déjà, les réelles légendes, c'est Zidane, Platini. Après, le cercle est vraiment très fermé. Si vous voulez, on l'élargit un peu. Mais pourquoi même quand on l'élargit un peu, moi je suis désolé, mais je mets pas Hugo Lloris dedans, parce que dans la légende, eh ben, il faut qu'il y ait des moments forts, des moments marquants, des moments qui marquent l'imaginaire, qui rentrent dans la tête des gens, et je pense qu'il y a plein d'autres joueurs qu'on va citer avant, pour lesquels il y a une action vraiment décisive, un moment vraiment décisif dans la quête d'un titre, et Hugo Lloris, je veux pas non plus enlever ce qu'il a fait en équipe de France, je pense qu'on n'aurait pas eu les succès des dernières années sans lui, notamment le titre en 2018, mais le mot légende, pour moi, il est un peu trop haut pour lui.
Ok, vous voulez répondre, la team légende, et après, évidemment, vous allez pouvoir donner vos arguments. Christophe Cessieux et Stephen Brun. Pascal Duprat, je sens que ça t'énerve.
Je veux bien prendre la parole, mais aussi parce que j'ai hâte d'écouter les arguments de Stephen et surtout de Christophe. Parce que ça me déçoit complètement.
Et bien, visiblement, ça ne pèse pas grand chose.
Bien sûr, Jean-Louis, je vais te répondre, mais j'étais sûr que t'allais aller dans cette direction-là. Voilà, et ça s'entend ce que tu viens de dire. Christophe, rassure-moi, Christophe.
Alors moi,
c'est parce qu'il est niçois que t'as peur qu'on taxe le chauvinisme.
Mais pas du
c'est
tout.
C'est pour ça que tu dis que c'est pas une légende.
Pas du tout.
Non, mais laissez-moi finir. Je vais argumenter. C'est parce qu'il marque. Jean-Louis, c'est parce qu'il marque pas de but. T'as parlé de faits marquants. C'est parce que Lloris n'a pas marqué de but avec l'équipe de France. Non, mais il est gardien de but.
Dans l'histoire de l'équipe de France, il y a des gardiens qui passent avant.
Je penche plutôt sur le fait que ben il est lisse. Ok, c'est parce que ben il fait pas de vagues, parce qu'il tellement il fait pas de vagues qu'il en désespère les talboïdes anglais. Tellement il est lisse, tellement il est bien élevé. Et c'est sûr que Deschamps il est tranquille avec lui, parce que il assure bien sûr sur le terrain, mais aussi parce que Deschamps il est pas obligé de prendre 10 doliprane par jour, parce que Lloris lui file des maux de tête. Non, il est bien élevé, il est respectueux de la hiérarchie. Donc tout ça, ça en fait pas une légende. Il maraboute pas ses coéquipiers. Il participe pas à des sextapes, ou alors il s'en cache de telle sorte que personne n'en entend parler.
Il est
désespérant.
Il avait bien conduit en état d'ivresse il y a quelques années quand même.
Il faut bien. Il me fait penser au blond Gad Elmaleh, tu vois. C'est un peu le blond Gad Elmaleh, donc c'est pour ça que il intéresse personne parce qu'en plus il s'exprime bien, le mec. Tu t'imagines? Dans ce monde de footballeurs, il s'exprime correctement.
Pascal, t'es en train de me dire que savoir faire trois phrases en faute de français, ça te permet de rentrer dans la légende des Bleus.
Ouais. Non, mais il a 142 sélections en équipe de France. Je l'espère, tu l'espères, tout le monde l'espère. Battu contre l'Angleterre ou le Sénégal très prochainement. Et sans vouloir t'offusquer, ça ne suffit pas à ce que tu dises que c'est une légende. Deux capitaines ont soulevé la Coupe du Monde, son sélectionneur et lui.
Ça ne suffit pas, Pascal.
Il a été le capitaine de l'équipe de France. Alors qu'est-ce que tu vas faire si d'aventure il en brandit une deuxième de Coupe du Monde. Tu vas dire quoi? C'est toujours pas une légende.
Joueur exceptionnel.
Félicitations, c'est tout.
Légende,
bravo.
Parce que moi, comme Jean-Louis, ce mot légende, on est en train de le galvaner. En l'espace de 15 jours, on a déjà fait deux débats. Olivier Giroud, devient-il une légende des Bleus?
On avait fait sur Benzema avant.
Maintenant, c'est Hugo Lloris, devient-il. Arrêtons un peu avec ce mot légende, n'importe qui rentre dedans.
Mais il bat des records.
Tu peux pas être une légende de l'équipe de France de football quand tu n'es même pas le plus grand gardien de l'équipe de France de football. C'est Fabien Barthez, le plus grand gardien de l'équipe de France de football. Sur ses 42 sélections, si je te dis Hugo Lloris, est-ce que tu as un flash d'une action marquante, une image marquante d'Hugo Lloris? Non. Fabien Barthez, France-Brésil, 98,
un match
Ronaldo,
contre l'Allemagne.
Il plonge sur Ronaldo, l'arrêt de la frappe sur Ronaldo qui lui colle dans les mains, le petit bisou de Laurent Blanc sur le crâne. Fabien Barthez, tu as des flashs qui viennent automatiquement.
Mais parce Hugo que Lloris, il est comme rien. Le bon arbitre. T'as il rien, passe presque inaperçu, tellement il est bon, tellement il est précis.
Tu sais quoi, Pascal? Les gens, ils ne peuvent pas admettre Hugo Lloris dans la légende de l'équipe de France.
Non, là, tu te trompes, 72%
tu sais pourquoi,
des auditeurs.
Parce que quand on est gardien de Tottenham pendant 11 ans, ça marche pas. Une légende des Bleus, c'est un mec qui joue au Real, qui joue au Barça, qui joue à la Juve, qui joue à United, qui joue au Milan.
Il joue à Tottenham, il a fait une finale de Champions League, malheureusement perdu.
De papa. Ouais. Tu peux pas être une légende des Bleus quand t'as pas joué dans un club
Barthez,
légendaire.
Barthez, Monaco, Marseille, Barthez. Manchester
Monaco, Marseille, donc tu me parles. United, Fabien Barthez.
Toulouse Manchester aussi, United. Attention, respect.
Oui, mais champion d'Europe avec Marseille, alors que Hugo a été finaliste de la Ligue des Champions. Mais il a une ligne à son palmarès quand même. C'est à part le titre avec l'équipe de France, qui effectivement.
Ah ouais,
énorme.
Ouais. Pardon, Christophe, excuse-moi.
C'est une coupe de France. Mais non, mais c'est une légende. Tu mets tout dedans. C'est comme la dernière fois, on avait le débat sur Benzema. Je trouvais que Benzema ne rentrait pas non plus dans la légende du football français parce qu'il n'avait pas décroché la Coupe du Monde avec l'équipe de France.
Eh bien, moi, j'avais parlé d'exemplarité.
C'est un mélange. Mais c'est un fantastique joueur. Moi, j'adore Hugo Lloris. Mais pour moi, c'est pas une légende. C'est pas parce que tu as battu les records que tu accumules des sélections que tu rentres dans la légende. Pendant des années, qui a été le joueur qui a détenu le plus de sélections avant la grande? C'est un garçon qui s'appelait Roger Marche. Est-ce que Roger Marche était dans la légende? Non, celui qui était dans la légende, c'était Fontaine, c'était Coppa, c'était pas Roger Marche. C'est pas parce que tu accumules les sélections que tu rentres dans la légende. Ça a été un super gardien. Ça a été sans doute pendant une ou deux saisons le meilleur gardien du monde. Mais il s'est pas inscrit dans la durée. Et comme le disait Steve, un garçon comme Barthez, il est plus dans la légende collective, dans l'imagination des gens, iconique, parce que cette Coupe du Monde, c'était la première. Et parce que ce sauvetage au-dessus de la tête de Ronaldo.
Parce que Laurent Blanc quand même.
Mais oui, bien sûr. Parce que autour, il y a eu aussi ce côté sulfureux, parce que cette équipe de 98, rappelez-vous, c'était les fêtes à Saint-Tropez, c'était les top modèles. Hugo, c'est un garçon exemplaire, mais il est trop exemplaire pour être une légende. Les légendes, ils
donc
doivent défrayer la chronique.
Parce qu'il a le charisme d'un genre idéal, il peut pas rentrer dans la légende.
Il a dit quelque chose de fracassant, Hugo. C'est toujours nickel.
Il faut procurer des émotions.
Oui, mais vous savez ce que c'est.
Il t'en procure des émotions. Le dernier mondial, il a fait des arrêts exceptionnels.
Les seules émotions qui me procurent Hugo Lloris, c'est de temps en temps, je fais des siestes. Voilà, ça me permet d'être.
Pour être une légende aussi, je pense qu'il faut avoir des histoires à raconter autour de la personne, des trucs comme le mythologique,
des
un peu légendaire. Pas forcément, mais on racontera un jour que Barthez, avant la séance de pénalty contre l'Italie, il se marre à deux minutes du truc alors que tout le monde est stressé.
Dites-moi,
on racontera
Zidane,
que Thuram, il a jamais mis un but dans sa vie. Mais Zidane, il met deux buts de la tête en finale de Coupe du Monde.
D'accord, c'est un peu une histoire que tu peux raconter. C'est quelqu'un de lisse.
Mais tu peux, sportivement, tu peux raconter des choses. Le doublé de Thuram, alors qu'il a pas marqué un but en demi-finale de Coupe du Monde, ça c'est des trucs à raconter. Mbappé qui prend de vitesse tout le monde à 17 ans, bah on le racontera aussi. Tout ça, ça fait plaisir. Ce sont des histoires légendaires. Et avec Loris, je suis désolé, j'en ai pas raconté.
Jean-Louis, puisque t'es à Doha, Jean-Louis, tu veux pas lui conseiller d'aller se mettre en équilibre sur la base cet après-midi à Loris pour que ça soit une légende?
C'est des trucs sportifs ce que je raconte, c'est des moments marquants, c'est des moments qui ont permis à la France d'aller loin sélections. En Coupe du Monde.
Mais ce que veut dire, pour essayer de vous conseiller.
Si le seul argument c'est 142 sélections, je trouve que déjà il y a un problème en fait. Si on fait ce débat juste sur la longévité, sur le nombre de sélections, c'est que la question se pose en fait.
Ok, vous entendez la cloche, ça veut dire. Je le dis quoi, élégamment ou pas élégamment?
Stop.
Alors élégamment c'est stop, oui t'as raison, ça veut dire stop.
Voilà, et élégamment c'est comment?
Fermez-la.
Chalef.
142 sélections pour Hugo Lloris, et si j'ai bien compris, on parle aussi de l'aspérité. Alors Lilian Thuram, 142 sélections, peut-être plus dans la légende parce qu'il y a ce doublé face à la Croatie, donc cette image qui reste et ce doigt sur la bouche, et puis Hugo Lloris, peut-être moins, en tout cas c'est les arguments que j'entends. Sachez que vous êtes nombreux à voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Nous marquons, c'est une petite pause dans ce bras de fer qui va démarrer de nouveau dans quelques instants. Vous allez pouvoir de nouveau avoir d'autres arguments pour tenter de faire pencher la balance. La team légende, même si Pascal se défend bien et Sarah va venir dans quelques instants à son cours.
On va les manger.
Mais la team légende est à 70%. Vous chutez un petit peu, 30%. Pour la team, pas légende.
Tu parles d'une chute.
On débat encore pendant 2 heures et on est devant. Hein. Encore 2 heures de débat et c'est
bon. On gagne 2% à 0 en fait.
70, 30. Pièce à conviction, Hugo Lloris. Je vous propose de l'écouter. Aussi. Hugo Lloris a parlé évidemment de ce chiffre. 142 sélections pour lui, c'était en conférence de presse. Écoutez.
C'est pas rien et je suis très honoré de ces chiffres, très fier. Même si à l'aube d'un huitième de finale de Coupe du Monde, ça reste bien évidemment secondaire. À mes yeux, voilà, cette compétition passe avant tout et j'ai envie de garder tout mon focus, toute mon énergie pour le match de demain. C'est quelque chose certainement que j'apprécierai davantage une fois la compétition terminée.
Hugo Lloris en conférence de presse.
Voilà, c'est la modestie de Hugo.
Il a le sens du collectif. Il a le sens du collectif dans un sport collectif.
C'est plutôt pas mal, ouais. Et c'est rare.
Et c'est quand même de plus en plus rare aujourd'hui. Alors, on parle de 142, mais il porte le brassard de capitaine depuis des lustres. Il a 118 brassards de capitaine. Loin devant Didier Deschamps. Donc, en fait, pour que ça rentre dans la case légende, il faut que ça marque son sport. C'est ça la définition. Il faut que ça marque un imaginaire collectif. Il va le marquer. Mais qu'il soit sous-coté, je pense qu'on est un peu tous d'accord, qu'il est sous-coté. Même Fabien Barthez dit de son compatriote avec qui il s'entend très bien que Lloris est un petit peu sous-coté. Mais cependant, parce qu'il est sous-coté, on ne peut pas lui attribuer le mot légende sur le fait qu'il est au sein de cette équipe de France depuis plus de 142 sélections à venir, c'est-à-dire que ça, je lui souhaite que ça augmente, il a fait 61 matchs sans encaisser de but, il a ses fameux brassards de capitaine, et parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui parle peu, mais qui est énormément écouté dans son univers, on doit lui enlever le synonyme ou l'adjectif de légende dans son sport. Mais t'as différentes légendes.
Tu mettrais qui dans le club des légendes? Parce que allons-y, balançons tous les joueurs qui ont marqué,
t'as des Zidane, t'as des Copa dont tu vas parler.
Donc voilà, ok.
Benzema aujourd'hui avec un ballon d'or, c'est une légende du foot français.
Ok, donc lui, on est au même niveau. Deschamps.
Deschamps, tu peux mettre Deschamps.
C'est une maison close en fait, tout le monde rentre dans cette légende.
Non, pourquoi tu dis ça? Tu as une dizaine de légendes, bien sûr, tu mets Thierry Henry, Giroud aussi, mais
à partir du moment où tu as des stats qui sont incomparables, tu marques quelque chose.
Je trouve que le mot légende est galvaudé si tu mets tout le monde dedans. Enfin, ce sont évidemment d'immenses footballeurs, mais je suis désolé,
Adam, tu
le club avoir... des légendes, c'est un club qui rassemble 4 ou 5 joueurs, pas plus. Quoi.
Mais qui dit ça à toi?
Bah ouais,
la définition des gens, c'est vous qui l'avez? C'est vous seul qui avez la définition.
Regardez sur un dictionnaire ce que ça veut dire.
Mais oui, justement, c'est ce que je te dis. Définition des gens, je vais te dire. Définition des gens, je l'ai tapé justement. Définition par rapport à une personne, c'est quelqu'un qui se conserve dans la mémoire collective. Je vois pas pourquoi. On va pas conserver dans la mémoire collective Hugo Lloris.
Le mec qui m'aura succédé, j'espère avant 20 ans, fera des c'était mieux avant, consacré à Lloris plus qu'à Mbappé, plus qu'à Benzema. Plus qu'à
non, Barthes. Peut-être pas plus, mais il en fera.
Que dans 20 ans, on parlera encore avec
mais pas plus, mais pas moins.
Du Golioris, on dira là là, mais quel génie, quel
preuve. Pas tous en même temps. Jean-Louis Tour. Il entre dans la mémoire collective par ce record de longévité, pour reprendre ta définition. Pas parce qu'il a fait, c'est parce que justement il dure et qu'il est allé chercher ce record. Mais s'il avait pas ce record, malheureusement, il serait moins dans la mémoire collective.
Et puis Jean-Louis, ce délire de 142 sélections, oui, c'est exceptionnel. Mais il n'y a pas de concurrence sur le poste de gardien de but, Hugo Lloris, c'est devant tout le monde.
Parce qu'il a écarté la concurrence.
Mais non, à l'époque, Barthez, t'avais Martini, t'avais des mecs qui se battaient. Il n'y a pas de très très bon gardien de très haut niveau sur les 142 sélections du Hugo Lloris.
Qui aurait
pu contester cette hégémonie du Hugo Lloris en équipe de France?
Comme on ne contestait pas celle de Fabien Barthez non plus.
Bah, Fabien Barthez, il s'est gagné sa place. Hein.
Bah, comme Hugo Lloris. Il y a eu Stephen Mandanda aussi à un moment. Il a écarté la concurrence.
Il y a eu un peu plus de concurrence avec Lama au début.
C'est une légende alors dans ces cas-là.
Pardon?
Stephen Mandanda, c'est une légende.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent, les spécialistes foot qui considèrent que Maignan, par exemple, est aujourd'hui un meilleur gardien.
Mais Maignan, le gardien numéro 1.
Je demandais à Pascal et à Jean-Louis, qui sont spécialistes, est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Non mais
il est blessé en plus.
Comment dire, Lloris, vous en fait il est victime d'un déficit d'image parce qu'il est gardien de but, ça c'est la première des choses, et parce que ses performances, non mais Christophe, en demi-finale de Coupe du monde en Russie, il réalise un arrêt remarquable contre la Belgique. Tu l'oublies?
Mais
grâce à lui, nous avons un deuxième titre aussi. C'est pas uniquement grâce à ses coéquipiers quand même.
Et puis ce rôle de gardien de but, de dire parce qu'il est gardien. Enfin, t'as des mecs comme Thibaut Courtois, comme Manuel Neuer, qui ont ces postes-là et qui sont quand même iconiques et légendaires dans le foot mondial. Donc on va pas juste dire
parce qu'il est
gardien.
Tu sais quoi,
interroge la confrérie des gardiens de but mondiale. Demande à tous les gardiens de but de sélection nationale ce qu'ils pensent de Hugo Lloris. Ils diront tous que c'est un super gardien.
Est-ce que c'est encore le meilleur gardien au monde? Pascal, et est-ce qu'il l'a
Hugo
été
Lloris,
au cours,
il a
au cours
été,
de sa carrière?
Il a jamais été le meilleur gardien
au monde. Il y a peut-être eu une saison ou deux quand même. Non,
Hugo Lloris, il a été pendant 2 ou 3 saisons meilleur gardien au monde.
Oh, t'exagères, Pascal.
Et, non mais Hugo Lloris,
en U12 peut-être.
Aujourd'hui, 142 sélections. Et quand, encore une fois, je l'espère, pour que définitivement vous l'inscriviez, vous le hissiez au niveau de légende, j'espère qu'il va être le deuxième. Pour la deuxième fois, il va brandir la coupe.
Mais ça changera pas
deuxième
mon avis. Fois,
capitaine. Bah, ça changera pas ton avis.
Bah non,
on l'espère aussi.
Bah alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que ça change ton avis?
Pour qu'il fasse attention.
Pour qu'il marque un but. Alors s'il marque un but à la 92e minute de la finale, qu'il nous a fait gagner.
Attention. Si on la gagne deux fois, je revois mon jugement. Là, le débat, c'est sur les 142 sélections. Est-ce que c'est parce qu'il a 142 sélections que ça devient une légende du foot français?
Une légende, il est peut-être pas iconique, mais il est une légende.
Écoutez-vous, s'il vous plaît, tout le monde, tous ensemble. Mais non, alors franchement, je vais trop passer le débat.
Ah, tu vas recommencer, là, il va nous faire sans la use.
Mais non, mais
minutes,
c'est insupportable.
C'est bon, on a compris.
Les copains, faites l'émission pour tout le monde, pas que pour nous. Voilà, Jean-Louis nous apportait un point de détail qui était important, qui nous disait je veux bien réviser mon jugement à l'issue de la Coupe du Monde. Voilà, je veux bien, ok.
Donc pour toi, Jean-Louis, t'es d'accord avec moi que c'est limite? C'est ton genre.
Non, moi je dis juste que c'est pas parce qu'il a les 142 sélections qu'il devient une légende du foot français. Il faut d'autres choses pour le devenir. Et s'il participe une deuxième fois à une victoire en Coupe du Monde en étant acteur majeur, bah oui, je reverrai mon jugement.
Ok, via le Direct Studio, il y a Stéphanie qui nous dit pour être une légende, il ne faut pas être en exercice. Non, je crois que c'est Stéphanie Lyonnaise.
Ah, tu vois.
C'est pas faux.
Il faudra se reposer.
Sauf sur Mbappé. Je pense qu'Mbappé, on peut. Voilà.
il faudra reposer la question dans 15 ans. On verra si son nom ressort.
On sera là pour la reposer.
Oui. Certainement, mais à ce jour, pas une légende.
Est-ce,
voilà.
Est-ce que Christophe sera là dans 15 ans pour reposer la question?
Est-ce que je serai une légende moi, dans 15 ans? Est-ce que tu me considéreras comme une légende?
Ah, une légende de grande gueule du soir, je pense qu'il n'y a pas débat.
Oui. Ah oui, non, là, il n'y a pas débat. Là, on est tous d'accord.
Parce que tu as combien de caps, toi? Parce que là, voilà. On peut parler de caps.
142, c'est de la gnagnotte à côté.
Est-ce qu'il y a des moments iconiques de Christophe Cessieux dans les grandes gueules du soir?
Oh, oui. Aussi. Oui.
Pourquoi tu rigoles quelque chose dans le minot, non,
ouais. On m'a dit des choses dans le casque, mais je ne peux pas tout répéter évidemment. Jean-Louis, tu veux le résultat du vote ou pas? Ou tu penses que tu as
perdu?
Ah oui.
Alors on a gagné de combien?
On a perdu. On a reperdu tous les points qu'on avait.
Je suis allé voter.
Serré, comme ça, cette histoire. Extrêmement serré. Vous êtes des milliers à avoir voté sur le compte Twitter des grandes gueules du sport.
Vas-y.
71-29.
Ah bah on est remonté.
Ah ouais, c'est vachement serré.
Un petit peu.
Il ouais. y a Pascal qui a su se servir d'un compte Twitter qui s'inscrit et qui a voté.
Non, mais c'est vachement. Non, mais Jean-Christophe, c'est vachement serré. Franchement, tu as d'une objectivité ce matin. Bravo. C'était, bravo, Jean-Christophe. 71-29 serré.
Tu me connais parfaitement, c'était ironique, mon cher Pascal.
RMC. Les grandes gueules du sport. Et vous?
Un peu d'expérience dans cette émission, ça nous fait du bien. Vous venez affronter une GG. On accueille Wassim, qui a 10 ans, l'expérience, évidemment. Bonjour, Wassim.
Bonjour.
Salut, Wassim.
Merci d'être avec nous, Wassim. C'est très bonjour. Courageux de nous appeler. Tu veux t'attaquer à qui ce matin? Tu veux nous dire quoi? Dis-moi.
C'est par rapport déjà au sujet d'Hugo Lloris.
Ok.
Déjà, tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je sais qu'avec mon papa, nous sommes des fidèles auditeurs de RMC.
Ah, c'est gentil, merci beaucoup, Wassim, merci. Sur Hugo Lloris, pour toi, légende ou pas légende? Alors, dis-nous.
Pas légende.
Bravo.
C'est un excellent gardien, effectivement. Il a gagné la Coupe du Monde, mais au point de dire légende, c'est un peu exagéré pour moi, en fait.
Ok.
Bravo, Wassim.
Exagéré.
Wassim, parfait.
Pourquoi est-ce que, alors, souvent, ce qu'on pourrait te répondre, parce qu'un jour, tu feras partie des grandes gueules, c'est sûr. Ce qu'on va te répondre, c'est ah oui, mais tu n'as que 10 ans, donc tu ne l'as pas beaucoup vu jouer, tout ça. Toi, quand tu le vois jouer, c'est pas un des joueurs qui te fait vibrer. C'est pour ça que tu nous dis ça?
Oui, c'est vrai qu'il a gagné la Coupe du Monde, mais pour lui, il faut qu'il la fasse gagner, surtout pour son équipe.
Pascal, tu veux lui répondre à Wassim? Tu veux vraiment asséner un coup? Vraiment? Non, on va le laisser tranquille.
Non, mais c'est bien, c'est courageux de sa part. Il a 10 ans. On appelle ça communément les minorités agissantes. Donc, comme tu n'avais que 30%, tu fais partie des 30% d'auditeurs qui n'étaient pas d'accord avec nous. Et je
les méchants, même avec les
choix,
enfants,
bravo.
Ce Pascal.
Non, pas du tout.
Il les mange.
Pas du tout. Il montre qu'il est courageux.
Il
donc,
Surtout Pascal, il a dû lui dire que le Père Noël.
Non, il est extrêmement courageux et c'est bon signe pour l'avenir de notre pays.
Merci.
D'avoir ce courage-là. Bravo.
Wassim, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu embrasses aussi très fort ton papa.
Une légende de, pour moi, c'est gagner des titres majeurs, plusieurs titres. La Ligue des Champions, l'Euro, les titres nationaux.
T'as raison,
et pour
Wassim.
L'instant, Lloris n'a rien gagné de tout ça.
Le problème, c'est qu'avec Tottenham,
juste une Coupe du Monde.
Il
n'a
pas gagné grand-chose.
Juste une Coupe du Monde, ouais.
Avec Tottenham, il n'a pas gagné grand-chose, malheureusement.
Wassim, dis-moi, sache que tu sais où on est, tu sais comment ça se passe. Quand tu auras besoin de faire un stage un peu plus tard, n'hésite pas à nous appeler et tu viens nous voir. D'accord, Wassim?
Ok.
Et on arrange ça. Enfin, ça fait plaisir. Hein, de toute moi, je veux pas te forcer.
T'auras Stephen et Christophe comme tuteur.
Ouais,
c'est sûr que tu n'auras pas JC parce qu'il est parti en vacances 8 mois sur 12. Donc, ça sera sûrement Christophe et moi qui seront là. C'est sûr. Wassim, choisis bien ta semaine. Merci, Wassim, et à bientôt sur RMC. On t'embrasse et allez les Bleus, évidemment. Tu vas suivre ce match de notre équipe de France. Xavier nous appelle également. Bonjour, Xavier.
Salut, DGG.
Merci d'être avec nous, Xavier. Oui, tu as quel âge? Tu as plus de 10 ans.
Ça peut être un stage, Xavier.
Je veux bien venir en stage, même si j'ai plus de 10 ans, il n'y a aucun problème.
Parfait. Mon cher Xavier, tu veux affronter qui ce matin?
Eh ben, en fait, non, je voulais venir à ton soutien, j'y sais, parce que j'ai trouvé que les GG avaient abusé un peu en te maugréant sur ce débat que tu as voulu faire vis-à-vis de Chesney et ses déclarations vis-à-vis de Mbappé.
Moi, je
trouve que c'est pas bête comme
idée. Il t'a envoyé un chèque ou quoi avant que tu appelles?
Tu joues au golf avec lui tous les mercredis?
Non, j'ai un swing pas trop terrible, donc je ne joue pas au score.
Bah, Xavier, merci de me défendre. Et vas-y, donne des arguments que je n'ai pas su trouver pour justement renverser le débat.
Eh bien, en effet, moi, je trouve que c'est plutôt même intelligent de la part de Chesney, parce qu'on sait que Mbappé fait partie de ces surdoués où il y a deux catégories. Les gars comme Messi qui sont taiseux et qui font tout sur le terrain, et des gars comme Ronaldo qui sont bouffis d'orgueil et qui ont besoin derrière de prouver quand ils se sentent attaqués. Et on sait très bien que Mbappé a beaucoup d'ego, ce qui est normal, ce qui est justifié, et que des fois, au contact de Neymar, on a pu s'apercevoir qu'il pouvait être amené à en faire trop. Et donc, avec ces déclarations, Szczęsny pourrait très bien rentrer dans la tête de Mbappé, celui-ci voulant derrière démontrer que il est plus fort que tout, que c'est pas ce petit gardien polonais qui va l'impressionner, et qu'il pourrait perdre un petit peu le jeu collectif, qui est plutôt pas mal qu'il a avec l'équipe de France et l'appui que fait Giroud, et vouloir à tout prix marquer son but, ou bien plusieurs, et dans cette défense qui est composée de 6 individus, il pourrait s'enferrer et être beaucoup moins productif. Donc je trouve que ce débat n'était pas si con que ça.
Merci. Et franchement, j'aurais jamais pu l'exprimer aussi bien. Merci
non,
beaucoup.
Non, pas si con que ça.
Non,
bah, tu vois, il y a quand même la pointe de...
Non, il a non pas du tout, je pense qu'il a totalement raison et bravo, et on va refaire ce débat la semaine prochaine d'ailleurs.
Ah non.
Voilà. Si c'est promis. Merci beaucoup Xavier.
Merci Xavier Drouet.
Je suis d'accord avec toi. Le best-of des grandes gueules du sport, ça continue dans quelques instants avec, comme tous les dimanches, à 11h30, le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux. C'était mieux avant sur la rivalité. Prost, Senna. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Joyeux Noël, chers auditeurs. On est de retour sur RMC pour le best-of des grandes gueules du sport. Tous les dimanches à 11h30, vous le savez, c'est votre séquence émotion, histoire du sport avec Christophe Cessieux. C'était mieux avant. En ce dimanche 9 octobre, Christophe nous contait la rivalité entre deux légendes de la Formule 1, Alain Prost et Ayrton Senna.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu, Dwis en tête. Dwis, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
22 octobre 1989, il y a 33 ans, la lutte Prost-Senna entre dans la légende.
Ce 22 octobre 1989, à quelques minutes du départ du Grand Prix du Japon, l'ambiance n'est pas à la franche rigolade dans le Motorhome McLaren. Le constructeur britannique est pourtant pratiquement assuré de décrocher un nouveau titre mondial dans quelques heures, et ce, sur les terres de Honda, le motoriste de la mythique voiture rouge et blanche. Le problème, c'est qu'à la fin de la course, il n'y aura qu'un seul champion. Or, ils sont deux pour l'unique place qui compte pour les fauves, que sont Ayrton Senna, champion du monde en titre, et son coéquipier et plus farouche rival, le français Alain Prost. Deux hommes qui se détestent cordialement depuis de longs mois, ne s'adressent plus la parole et ne se serrent même plus la main. L'histoire entre le français et le brésilien avait pourtant débuté sous les meilleurs auspices la saison précédente, lorsque Prost avait glissé le nom du jeune prodige de Sao Paulo pour venir l'épauler chez McLaren.
Quand on est allé chez Honda au Japon avec Ron Dennis pour négocier le moteur, il voulait prendre Nelson Piquet. C'est moi qui leur ai dit non. La nouvelle génération, c'est Ayrton. Prenez Ayrton. Ils ont été surpris. Alors certains peuvent me dire, mais pourquoi t'as fait ça? Tu ne regrettes pas? Non, parce que premièrement, McLaren était mon écurie. Donc je pensais que c'était pour le bien de l'écurie.
Et lors de leur première conférence de presse, les deux pilotes affichent sourire et bonne humeur.
Pour la première fois dans sa carrière, Ayrton a une voiture capable de gagner le championnat du monde. Et il ne veut pas laisser passer sa chance. C'est normal, il va donner son maximum.
Et toi alors, tu vas faire quoi toi?
Ah, c'est pas tout à fait pareil.
Tu vas me laisser faire.
J'ai un peu plus de pression que... Enfin, c'est toi qui mets la pression.
Mais les sourires vont rapidement se figer. Au cours d'une saison marquée par la domination sans partage des deux hommes, sur les 16 Grands Prix disputés, ils en remportent 15. 7 pour Prost, 1 de plus pour Senna, qui le 30 octobre 88, déjà à Suzuka et à l'issue d'une formidable course, devient champion du monde pour la première fois de sa carrière.
Senna très menaçant là dans la ligne droite. Il est en train de passer, il est en train de passer. Oui, il est passé. Senna a pris la tête de ce Grand Prix qui semblait perdu pour lui au départ, alors qu'il avait 14 secondes de retard sur Alain Prost. Il vient maintenant de prendre la tête, et s'il la conserve, ne l'oublions pas, et bien le titre est au bout.
Ayrton Senna, Ergio Puglio, viva Brasil.
Le Le Brésil est en liesse. Et Senna aux anges, à 28 ans, il entre dans la cour des grands et vient marcher sur les pneus d'Alain Prost. Car si le professeur affiche une mine satisfaite de circonstances, il a compris que pour espérer décrocher un troisième titre, il allait falloir changer de méthode. Et Prost ne va pas être déçu. Dès le deuxième Grand Prix, sur le circuit d'Imola, la bagarre reprend de plus belle. Senna est en pole et Prost a chaussé les godasses de plomb.
Vous l'avez vu, a pris le meilleur sur Ayrton Senna. Prost toujours en tête, Senna dans ses roues qui se prépare certainement à l'attaquer au freinage de Tosa. Voilà, il s'est mis en position de le faire, il est à l'intérieur, il prend le dessus. Oui, il est passé, Prost, vous l'avez vu, a laissé largement ouverte la porte pour ne pas risquer l'accrochage avec son bouillant coéquipier.
Et Prost ne reverra son équipier qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, en tête évidemment par le Brésilien, pour la plus grande fureur du Français.
Avant le départ de la course d'Imola, Senna me dit au premier virage qu'on n'attaque pas celui qui est en tête et on commence la course à la fin du premier virage. Il en a profité pour me doubler puisque j'étais en tête et donc il a encore failli à sa parole. J'en ai voulu, bien entendu. Je ne suis pas allé à la conférence de presse, j'ai pris 5000 dollars d'amende de la Fédération internationale pour quelque chose dont je me sentais quand même un petit peu bafoué.
Le schisme est désormais acté au sein de l'écurie anglaise qui compte deux clans et deux champions du monde. Et Prost, qui se croyait pourtant chez lui, chez les Rouges et Blancs, réalise très vite que l'avantage est donné à son rival. Le mal-être s'installe.
C'est jamais la même voiture. C'est une question de tout, de préparation, d'attention. C'est toujours le même problème. Mais là, bien entendu, il est amplifié. Donc une seconde 8 d'écart. Alors je fais même pas le temps que je faisais en essai privé il y a un mois et demi ici. C'est incroyable. Pas vite comme ça là, jusqu'à la fin de la saison, c'est top. Et donc, une course ou deux, puis on verra bien, pas le point après.
Le professeur menace, le professeur tempête, il cache à Senna les réglages de sa monoplace et quelques semaines plus tard annonce son départ de McLaren à la fin de la saison. Mais avant de partir, il reste une dernière couronne à aller chercher. À deux grands prix du terme, l'avantage est aux Français. Si Senna veut décrocher un deuxième titre, il est dans l'obligation de gagner à Suzuka. Prost est évidemment au courant des enjeux. Il est bientôt 14h au Japon. TF1 prend l'antenne pour ce qui va devenir le Grand Prix le plus polémique de l'histoire de la F1.
Si Senna gagne les deux derniers Grands Prix, à lui la médaille d'or. Sinon, à Prost, tous les honneurs. À gauche, Senna, à droite, Prost.
Très bon départ de Prost. Excellent départ de Prost. Prost en tête. Prost en tête, Senna dans ses roues. Les deux McLaren devant. Alain Prost a réussi à prendre le meilleur sur Ayrton Senna.
Les deux flèches rouges et blanches creusent rapidement l'écart sur leurs concurrentes. C'est bien simple, il ne semble y avoir que Prost et Senna sur la piste. Le Brésilien ne nage pas sa proie d'une semaine. Il sait qu'il lui faut passer le Français. Au 47e tour, à l'approche de la chicane, il tente le tout pour le tout.
Senna de plus en plus pressant là. Quel suspense vraiment. Mais les deux hommes sont survoltés là, c'est évident. Il est ici, tentative de passage. De Prost, ça y est. Ah, il se sent de passer.
Voilà. C'était prévisible. Il n'avait pas le choix, Ayrton Senna. Attention, s'il repart.
Il repart, mais en court-circuit, en la chicane, c'est n'importe quoi. On change donc le capot avant, le museau de Ayrton Senna qui se rue de nouveau en piste.
Et Senna, déchaîné, revient et dépasse Nannini qui avait pris la tête quelques tours plus tard. C'est en vainqueur qu'il franchit la ligne.
Tout le monde est debout. Ayrton Senna, le drapeau a gagné. C'est la fête dans le cockpit. Ayrton frappe son casque de ses poings. Ayrton Senna, le Brésilien.
Le camp brésilien est en liesse. Quant à Prost, lui, il monte 4 à 4 les marches du bureau de la direction de course où il entend bien faire invalider le succès du Brésilien. 20 minutes plus tard, la sanction tombe.
La décision rendue par le Collège des commissaires sportifs du Grand Prix du Japon excluant la voiture numéro 1 et le pilote Ayrton Senna des résultats de l'épreuve.
Prost est champion du monde, mais il a un peu de mal à savourer. Furieux, le Brésilien refuse non seulement de serrer la main de son coéquipier, mais avec l'aide de son écurie, il va tenter en vain de faire plier la FISA et son président, le Français Jean-Marie Balestre, une décision qu'il aura beaucoup de mal à digérer. Non.
The way the whole affair has been treated is like...
Dans cette affaire,
On a considéré que j'avais l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. On m'a accusé de tout et on m'a pénalisé pour tout. J'ai été traité comme un criminel. C'est parfaitement inacceptable.
Un traitement dont il va se souvenir un an plus tard sur ce même circuit de Suzuka où pour la troisième année consécutive, le titre va se jouer entre les deux ennemis irréductibles. Cette fois-ci, Prost sur sa Ferrari est dans une situation moins confortable. C'est à lui de gagner, faute de quoi le titre changera de camp. Quant à Senna, il est prêt à tout et ne se gêne pas pour le faire savoir.
Je me suis fait baiser trop de fois par le système. Alors aujourd'hui, c'est fini. On va faire les choses à ma façon. Je me fous de ce qui peut arriver. C'est moi qui décide.
Senna est en pôle, à ses côtés, Prost et sa Ferrari ce jour-là. Il valait mieux ne pas arriver en retard.
Et le départ a été donné immédiatement. Qui a pris le meilleur? C'est Prost devant Senna. Ça, c'est extrêmement important. Senna va quand même déboîter. Attention, et c'est l'accrochage. Les deux pilotes, Senna et champion du monde, dès cet instant.
Le suspense pour le championnat du monde aura duré très exactement 2 secondes et demie, Jacques Lafitte.
Je trouve ça triste d'être couronné champion après avoir fait une erreur pareille. Ça se termine en queue de poisson, un peu comme l'année dernière d'ailleurs à Suzuka. Et je crois qu'il faudrait que la Formule 1 ne retourne plus à Suzuka. Je veux dire, c'est épouvantable de voir des... sportivement parlant, de voir des images comme ça.
Ayrton avait tout à fait été correct depuis qu'on se rencontre et je ne pensais pas du tout qu'il puisse faire une manœuvre comme ça. Et de cette manière-là, vraiment, je trouve que c'est très très décevant. Et je crois que bon, les gens comme Senna se montrent encore aujourd'hui, montrent leur vrai visage. Pour les jeunes qui nous regardent, pour le sport en général, je trouve que c'est dégueulasse.
Et les batailles entre les deux seigneurs du volant vont se poursuivre durant la saison 91. Et cet épisode marquant lors du Grand Prix d'Allemagne où Prost, tassé par Senna au bout de la ligne droite, se plaint une nouvelle fois de la manœuvre du Brésilien qui ne va pas se priver de lui répondre aussitôt le drapeau à damier franchi.
Tout le monde connaît Prost. Quand il ne se plaint pas de la voiture, ce sont les pneus, ou l'écurie, les mécaniciens, les autres pilotes, ou le circuit. C'est toujours de la faute des autres. Jamais de la sienne.
L'intention est telle que Prost, déçu des prestations de sa Ferrari, décide de prendre une année sabbatique avant de négocier son retour chez Williams avec une clause qui provoquera de nouvelles tensions.
La seule chose que j'ai exigée dans mon contrat, c'est qu'Ayrton ne soit pas mon coéquipier. J'ai été très clair et ils ont accepté tout de suite. D'ailleurs, ça n'avait jamais fait partie de leur projet. J'ai exigé cette chose parce que je voulais à tout prix être champion du monde. Je ne voulais pas perdre cette opportunité.
Et cette fois-ci, c'est Senna qui est colère. Il sait que sa McLaren n'est pas au niveau de la Williams et condamne le comportement de son éternel rival. Il est impossible d'accepter que quelqu'un signe un contrat de veto contre moi et contre Mansell. La façon dont se comporte Prost est celle d'un lâche. La Williams se révélera effectivement beaucoup plus rapide que la McLaren de Senna. À l'issue de la saison 93 à Adélaïde en Australie, Prost remporte donc logiquement une 4e couronne mondiale pendant que son rival, lui, s'adjuge le dernier Grand Prix de la saison, mais aussi de sa vie. Sur le podium, à la surprise générale, Senna invite alors Prost, qui part à la retraite, à monter à ses côtés sur la plus haute marche du podium. L'âge de guerre est enfin enterré entre les deux immenses champions et à la haine va succéder une amitié aussi profonde qu'elle sera brève.
À partir du moment où il y a ce podium, mais il m'a appelé au moins une fois ou deux par semaine, en me parlant des moments pour rien, me demandant des conseils, me parlant même de choses personnelles. On est devenus amis, on est devenus proches.
Le 1er mai 1994, sur le circuit d'Imola, au moment de prendre le départ, Ayrton Senna va même prononcer cette phrase à destination de son vieux rival. Un bonjour particulier à mon cher ami Alain. Tu me manques, Alain.
Comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copain, sinon ami, mais peut-être même ami dans le futur, on ne sait jamais.
Mais de futur, il n'y en aura pas. Quelques minutes plus tard, dans le virage de Tamburello, au moment où Senna perd la vie, dans sa cabine de commentateur, Prost comprend lui qu'il perd tout à la fois le rival d'une vie, mais aussi un ami sincère de quelques mois. Un homme qu'il aura détesté autant que Senna l'a haï, et dont il est pourtant aujourd'hui le garant de la mémoire. Senna Prost, Prost Senna, deux champions, à jamais indissociables, que même la mort n'a pas réussi à départager. Merci Christophe Cessieux pour ce moment d'histoire et cette lutte intense entre Ayrton Senna
et Alain Prost. Votre réaction, je vous ai vu sourire de nombreuses fois envers cet taquet, Jérémy Bayou.
Ouais, c'est super bien raconté. Il y a des archives juste magiques, il y a des pépites. Et puis il y a tout, quoi. Il y a du sport de très, 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 très haut niveau, de seigneur, comme tu l'as dit. Et puis la tragédie, je pense qu'on s'y est tous vu. On a tous revu les images, on a tous vu les documentaires sur Sénat notamment. Voilà, moi j'ai eu la chance de croiser une fois Prost aussi dans ma vie, et il y a un charisme. Enfin voilà, c'est très émotionnel. Ouais.
Mais pour les plus jeunes, c'est bien de se rappeler de cette lutte intense de grands champions qui à un moment donné de leur carrière se sont quand même détestés, Olivier.
Ah bah là, dans les invectives, il y avait pas Twitter ni Facebook, c'est assez clair. Et aujourd'hui, on se plaint souvent de la manière de s'affronter en dehors des circuits, en dehors des terrains de sport, les athlètes. On les critique pour ça. Les mots, ils sont très clairs, hein, entre les deux. Et ce qui fait finalement la vraie histoire entre ces deux hommes-là. C'est-à-dire que leur rivalité, elle était tellement forte que ça en a créé une amitié une fois qu'ils en avaient fini de s'affronter. Et ça, je trouve ça, c'est incroyable de revivre ça comme ça. Et puis Christophe, il nous le fait un petit peu toutes les semaines, ce truc-là.
Exactement. Le direct studio Enzo, incroyable narration de Christophe. Je suis ému. Rapidement, mon cher Simon.
Oui, c'est les premiers souvenirs de Formule 1, cette rivalité. Effectivement, nous, en France, on aimait bien la raconter avec le gentil Prost et le méchant Senna. Je pense que ce serait se tromper sur le caractère d'Alain Prost, qui lui aussi avait un ego surdimensionné et qui, je pense, avait toutes les armes aussi pour rendre l'autre complètement fou. Il était un peu plus premier degré, le Sénat, mais effectivement, cette rivalité, elle était à la fois sportive. Tu te rends compte qu'en fait, quand ils ont commencé à regarder autour d'eux, effectivement, ils se sont rendus compte que finalement, même si l'autre l'avait emmerdé pendant toute sa carrière, il y avait quand même que du respect entre les deux. Et juste pour résumer, c'est les guignols de l'info qui résumaient sans caricaturer cette rivalité. Il y avait Senna qui disait I fuck you, Alain, et Alain qui disait moi aussi, Ayrton, j'embrasse ta famille.
Bien résumé. Un magnifique Christophe Cessieux. C'était mieux avant, que vous retrouvez tous les dimanches à 11h30 et évidemment en podcast sur l'application RMC. On est de retour dans quelques instants pour le best-of avec une punchline de Yoann Claret et le non-sens écologique du ski alpin. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour sur RMC pour le best-of des grandes gueules du sport. Nous sommes le samedi 22 octobre. Pas aujourd'hui, évidemment. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est dimanche 25 décembre. Le 22 octobre, donc, dans les grandes gueules du sport, Yoann Claret, lui le vice-champion olympique de descente, s'en prend à sa discipline. Nous étions avec Stephen Brun, Christophe Cessieux, Marc Madiot et David Douillet. C'est une punchline. La saison de ski alpin débute ce week-end à Zolden et les polémiques sont déjà de sortie. En cause, la deuxième étape qui aura lieu le week-end prochain dans les stations de Zermatt en Suisse et Cervinia en Italie sur le mont Cervin. Une nouveauté dans le calendrier, la Fédération internationale de ski a décidé de créer une nouvelle étape et d'avancer d'un mois les compétitions de vitesse qui débutent traditionnellement aux États-Unis. Fin novembre, une nouveauté qui interroge en plein automne en raison notamment des températures plus douces et du faible enneigement, à commencer par notre vice-champion olympique de descente, Yoann Claret. C'est la punchline. DGG, c'est un coup de gueule rapporté par notre copine Siri, la rapporteuse.
RMC, la punchline GG.
Je trouve que cette course est un non-sens. Beaucoup de coureurs pensent comme moi, mais très peu vont le dire. La course n'a pas lieu d'être. On voit que les conditions sur les glaciers sont de pire en pire chaque année. Cette étape demande des moyens énormes en hélicoptère, des moyens humains pour boucher les crevasses, pour rendre une piste potable. Je ne comprends pas, ça ne va pas dans le sens dans lequel devrait aller la Fédération internationale.
Le coup de gueule de Yoann Claret, notre GG qui va disputer sa dernière saison. Le ski alpin se tire-t-il une balle dans le pied? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Oui.
Stephen Brun?
Oui.
Marc Madiot?
Oui.
David Douillet?
Ben oui.
Ok, personne ne peut me dire un oui normal, en fait, j'ai bien compris. Christophe, pourquoi non. Oui. Pardon. Pourquoi oui?
Pourquoi oui? Bah, parce que ça a aucune raison d'être, cette compétition. Déjà, ce week-end...
C'est la promotion du ski alpin, c'est oui, ce que répondent les détracteurs.
Oui, exactement, c'est la promotion du ski alpin, c'est surtout la promotion économique des stations. Pourquoi on organise ces compétitions si tôt dans l'année? Solden, c'est depuis 1993.
C'est une institution.
C'est une institution. Mais alors, c'est une course qui a lieu, et derrière, pendant un mois et demi, t'as plus aucune compétition. Donc déjà, sportivement, c'est un peu compliqué. Il faut que les athlètes soient prêts maintenant. Ensuite, ils vont faire quoi? Ils vont faire de l'entraînement et ensuite ils vont revenir en compétition dans un mois et demi. Pourquoi on fait ce genre de choses? Pour que les gens aient en tête des belles images, voient des belles images de ski, de manière à leur dire, écoutez les gars, la saison, l'hiver, winter is coming back,
venez,
n'oubliez pas de réserver votre séjour à la montagne, n'oubliez pas d'acheter votre forfait. Moi je reçois en ce moment, là j'ai reçu les trucs de l'école de ski où j'inscrivais mes enfants pendant des années. Ah, pensez-y maintenant, si vous inscrivez maintenant.
Ça c'est plutôt normal.
Oui.
Tu payes encore toi ce genre
non,
de
choses. Non, c'est fini maintenant.
Ça a coûté la peau des fesses,
et maintenant ils m'attendent même plus, mes enfants.
Christophe,
donc c'est bon,
non, hein. Et ton argument est très intéressant, mais entre recevoir des mails parce que tu as déjà. Non, mais c'est vrai, mais parce que tu es déjà parti.
Bon, mais non, mais on reçoit tous un peu ce genre de choses. Au mois d'octobre, l'industrie du ski, l'industrie de la montagne, a besoin d'entrer des réservations, tu as des ristournes aussi sur les forfaits de ski si tu les prends maintenant. Et donc, la promotion du ski, elle se fait par les belles images.
Elle se fait par la fédération.
Et par les athlètes qui font des compétitions. C'est une des raisons pour lesquelles ils font des compétitions si tôt.
Alors moi, je reçois des mails, mais c'est le salon de l'érotisme parce que j'avais déjà été au parc.
Oui, ça, je comprends.
Ça n'a rien à voir.
T'as des réductions sur les menottes ou pas?
C'est des relances.
Très bien.
Mais alors moi, c'est un très bon argument de la part de Christophe. Il y en a un autre qui, c'est encore une belle idée de la FIS, à l'heure où tout est à l'écologisme, la protection environnementale. Là, c'est un non-sens complet. Et tu t'aperçois qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique pénalise les sports d'hiver. Et qu'aujourd'hui, pour faire une piste là au mois d'octobre, au mois de novembre, t'es obligé de déployer des canons à neige, qui est pas de neige naturelle parce qu'il y a quasiment pas de neige. Je vois que Clara dit que les pistes elles sont impraticables parce qu'il se passe rien.
Là, les pistes elles sont vertes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a pas un peu de blanc.
Donc c'est catastrophique. Ensuite, on avait reçu Alexis Pinturo à RMC il y a quelques temps, qui nous disait que pour lui, il fallait un réaménagement du calendrier, à savoir faire 4 ou 5 compétitions sur un continent, puis après partir sur un autre continent. Là, ça voyage à droite à gauche. La compétition, elle reprend tellement tôt que les skieurs européens, pour s'entraîner, ils vont où? Ils sont obligés de partir très loin pour trouver des stations de ski pour pouvoir s'entraîner.
Là, ils ont fait tout l'été en Amérique du Sud.
Je vois pas. Qui sont les dirigeants de la FIS? J'ai l'impression qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe de l'actualité. J'ai l'impression qu'ils sont déconnectés du monde actuel et qu'ils vont à contresens complet. Et ils se font tirer dessus. Et je suis content qu'il y ait des skieurs comme Joanne Claret ou comme Alexis Pinturo qui sont nos représentants français pour tirer la sonnette d'alarme. Et puis on va pas revenir sur ça c'est pas la FIS qui décide, mais sur les jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Plus rien ne va. Le sport d'hiver est en grande difficulté. Les Jeux Olympiques d'hiver sont en grande difficulté et ils font en sorte qu'on leur tape dessus.
C'est ça qui est assez incompréhensible. On sort d'une semaine où on en a parlé la semaine dernière, ces Jeux asiatiques en Arabie Saoudite, où il y a eu cette prise de conscience, cette levée de bouclier. Et là, on apprend que la fédération lance une nouvelle étape un mois avant. Ça vous choque pas, Marc Madiot, David Millet?
De toute façon, si, c'est choquant parce que c'est le sens de l'histoire. Mais je crois qu'à travers cette situation, on met en évidence le fonctionnement de bon nombre de fédérations internationales. Le système électif de ces grandes instances est tellement nébuleux et tellement dans l'entre-soi qu'on en oublie les fondamentaux. Et ce qui se passe dans le ski peut éventuellement se passer ailleurs, dans d'autres disciplines. On l'a vu avec le foot, on l'a peut-être même vu aussi par le passé avec le cyclisme. Donc le fonctionnement du sport mondial et la façon dont sa représentation est mise en place pose question et on arrive à des situations comme celle-ci par conséquence. Donc moi je suis pas surpris de ce qui se passe, mais de toute façon le sens de l'histoire voudra qu'à un moment ou un autre on remette tout à plat.
Le toujours plus, David Douillet, toi tu l'as connu évidemment en faisant aussi de la politique, en t'occupant aussi, et tu connais bien les fédérations, comment elles s'organisent. C'est comme Marc, tu trouves ça finalement on va dire courant? Ça t'étonne pas plus que ça qu'on prenne ce genre de décision?
Moi je suis d'accord avec Marc, il y a beaucoup de gens qui sont hors sol et qui sont pas dans leur dans la mouvance du temps et qui vivent pas dans la vraie vie en réalité. Ils sont dans leur sphère, dans leur grand bureau, dans leurs immeubles, dans leur tour de verre, de cristal, et ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Mais ils ont besoin aussi d'argent, ces fédérations, et peut-être, alors c'est une question avec un point d'interrogation, Est-ce que les droits télé n'ont pas influencé ce type de décision? Est-ce que les négociations avec tel ou tel diffuseur par rapport à tel ou tel endroit dans le monde, par rapport à tel ou tel fuseau horaire, n'ont pas influencé ce type de décision? Voilà, et je crois que bah, compte tenu de ce qui se passe, et on en fait tous le constat dans nos vies personnelles tous les jours, sur la protection de l'environnement, et ben que des entités sportives n'y soit pas encore et ne le considère pas encore, moi ça me terrifie. Enfin, ça prouve encore qu'il y a des gens qui qui sont pas dans la vraie vie. Tu parlais des politiques, il y en a qui sont pas dans la vraie vie et qui prennent des décisions qui sont aussi bêtes que ce qu'ils disent, et certains les appliquent, comme la Fédération internationale de ski.
Alors, il faut savoir, David, que le président de la Fédération internationale de ski, c'est un homme d'affaires, c'est le patron de Aide, hein, qui est une marque de ski, mais c'est aussi quelqu'un qui est engagé justement dans des actions écologiques depuis des années. Il a fondé Rainforest Trust et une autre association écologique qui s'appelle Cool Earth. Donc, il est un peu le cul entre deux chaises, entre
promouvoir le ski,
promouvoir et faire marcher l'industrie du ski, et en même temps, il est très engagé écologiquement parlant. Son secrétaire général, c'est l'ancien président de la Fédération française de ski, Michel Vion, qui lui aussi a plutôt bonne réputation. Donc moi, c'est pour ça que je suis surpris, parce que les mecs qui sont à la tête de cette fédération internationale, on a changé beaucoup de choses au sein de la Fédération internationale de ski. Et malheureusement, on arrive à ce genre de décision.
Après, David, il parle sur les droits télé. Tu sais que le ski alpin, c'est parfois une perte pour les télévisions. Entre les compétitions annulées, le brouillard. C'est impossible de filmer.
Justement, ce matin, on parlait de Solden. Ça devait commencer dès ce matin. On devait en parler dans cette émission. Eh bien, exactement. Le géant d'âme vient d'être annulé en raison de mauvaises conditions météo.
Il pleut.
Il pleut. Voilà. Non mais
c'est vrai.
On a tout dit. Il pleut. Et les organisateurs ont dû se résoudre à annuler la compétition pour ce matin.
Juste le mot de la fin.
David, pardonne-moi.
Pardon. Non, mais c'est pas le mot de la fin du tout, parce que c'est un débat qui reste complètement ouvert. Je pense qu'on aura d'autres sujets dans d'autres disciplines pour aborder les problèmes de considération économique et écologique, parce que souvent ça fait malheureusement pas bon ménage et c'est dommage. Mais en tout cas, des décideurs comme cela, faut se méfier, que ce soit dans le monde, pas que dans le monde du sport. Vous avez plein de dirigeants qui prennent des positions officielles sur en soutenant des associations, des mouvements ou des actions écologiques, etc. Et qui en réalité s'en contrefiche. Je dis pas que c'est le cas du président de la Fédération internationale, mais faut pas être naïf. Il y en a beaucoup qui font croire que, et en réalité, la preuve, y a pas de considération dans les faits.
Et au sein de leur fédération, exactement. Et il faut savoir, et ça c'est plutôt pas mal, c'est que nos skieurs français, eux, ils sont au courant que le ski est en danger, que l'image du ski est en danger. Donc ils montent au créneau pour dire attention, parce que là on est en train de faire peut-être n'importe quoi. Le best-of des grandes gueules du sport. On vous accompagne jusqu'à 13h. Oui, en ce jour de Noël, nous faisons un petit peu de rab. Tous les grands moments de la saison, c'est aujourd'hui. Profitez-en, on revient avec un invité, Corentin Moutet, le tennisman français qui était venu s'expliquer dans le studio RMC sur l'altercation qui avait opposé un joueur bulgare. À tout de suite sur RMC.